Radio Kapi.
Le journal Yevin Mbwingavubu à la présentation.
Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Retour du dossier grève des enseignants avec cette menace du président de l'Association nationale des parents des élèves du Congo. Steve Diatezoa appelle le gouvernement à sanctionner les enseignants grévistes qui sont manipulés selon lui. Nous saurons comment dans ce journal. Nous dirons un mot sur la satisfaction des notables de la chefferie de Banyali Tchabi en Ituri. Ils applaudissent les appuis de la MONUSCO dans la zone devant une délégation de cette mission onusienne qui s'est justement rendue sur place. Journée de la canne blanche, c'était hier 15 octobre. Jack Sambeya, coordonnateur de l'AS Belcri de Bartimé, aveugle de son état, va nous expliquer le pourquoi de cette journée et les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Nous ouvrons ce journal par le dossier éducation et surtout avec cette menace du président de l'ANAPECO. L'Association nationale des parents des élèves du Congo appelle le gouvernement congolais à sanctionner les enseignants grévistes qui, selon lui, sont manipulés par une main noire. Steve Diatezoa l'a déclaré ce mercredi dans un entretien accordé à Radio Kapi. Il estime que plus de 80% d'écoles publiques suivent normalement les cours depuis la rentrée scolaire. Il estime enfin qu'il est temps pour le gouvernement congolais de mettre hors d'état de nuire ces enseignants grévistes qui résistent au mot d'ordre de reprise des cours lancés par leur syndicat. On écoute Steve Diatezoa, joint par Alain Hirung.
Au jour d'aujourd'hui, je suis heureux de constater que la grande majorité d'écoles ont reçu nos enfants et que les élèves sont en train d'étudier. Il est resté des poches résiduaires ou des enseignants se disant syndicalistes sont radicalisés poursuivant d'autres objectifs que l'objectif de grève. Parce que je sais que les vrais leaders syndicaux, les grands syndicats installés dans le pays, ont donné le mot d'ordre de suspendre la grève et tous les enseignants sont à l'école. Mais ceux-là qui sont instrumentalisés par des mains noires veulent continuer à sécher le travail et c'est ce que nous déplorons en tant que parents et responsables. Et donc, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités parce qu'on ne peut pas payer les gens qui refusent de travailler.
En rapport toujours avec ce dossier, sachez qu'il y a eu signature d'un arrêté interministériel lundi portant création et mise en place de la commission permanente de suivi des accords de Bibois entre le gouvernement congolais et le banc syndical des enseignants. C'était en présence des délégués de l'intersyndicale des enseignants, du SINECAT, du CIECO, SINIECO et SINEP, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou de la fonction publique, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, accompagnée du vice-ministre Keza Moudrou, du ministre d'État et ministre du Budget, Aimé Boje Sangara, et la vice-ministre des Finances, Onèche Selemimpa, ont apposé leur signature sur le document. Les membres du gouvernement ont insisté chacun dans son mot de circonstance sur l'impérieuse nécessité du nettoyage du fichier des enseignants. D'autres détails avec vous, Alain Hirung.
Selon les membres du gouvernement, cet assainissement permettra de lutter contre la fraude, d'élaguer les fictifs pour dégager des marges budgétaires qui seront affectées à l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Par ailleurs, le gouvernement a insisté sur l'octroi du statut particulier d'agent public de l'État à l'enseignant congolais. La ministre d'État Raïssa Malou a dans son intervention dit sa gratitude et sa disponibilité pour cette nouvelle collaboration. Revenant sur l'option d'assainir le fichier pour une amélioration significative des conditions des enseignants. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a souligné que face aux difficultés, aux divergences, il n'y a que les dialogues pour aplanir les choses et surtout tracer les voies ensemble pour avancer, a-t-il dit aux délégués syndicaux. Pour sa part, le porte-parole de l'intersyndicale Godefroy Matondo a vivement remercié le gouvernement pour la promptitude dans l'exécution des engagements pris à Bibois, ce qui n'a jamais été le cas par le passé, a-t-il dit. Les syndicats, a-t-il déclaré, vont s'impliquer profondément dans l'assainissement du fichier des enseignants.
Rentrée scolaire 2024-2025 au Nord Kivu perturbé et la société civile locale dans la tourmente. Vous avez compris, c'est toujours suite à la grève des enseignants depuis le 2 septembre dernier. Dans un communiqué de presse rendu public hier mardi à Goma, cette structure déplore les désaccords entre le gouvernement congolais et les syndicats des enseignants malgré toutes les réunions déjà tenues. Pour son président, depuis près de 20 ans, ces grèves ont eu lieu à chaque rentrée scolaire affectant l'éducation des enfants, des élèves du secteur public. Celui-ci exige du gouvernement congolais une solution urgente à ce problème. John Banyene, dans ses propos recueillis par Bernard Danyangi.
Depuis la rentrée scolaire, les écoliers du secteur public du Nord Kivu n'étudient pas. Les grèves initiées à chaque rentrée des classes pendant plus de 20 ans ont conduit à une baisse sensible de la qualité de l'enseignement. Ainsi, la coordination provinciale de la société civile recommande à son Excellence Madame le ministre de l'EPST de procéder urgemment au réajustement du budget alloué à l'éducation en privilégiant l'augmentation du salaire de l'enseignant, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat de saisir de l'opportunité de la session budgétaire en cours pour réduire à 50% les lignes allouées au train de vie des institutions de la République et procéder à la majoration des salaires des enseignants et autres agents de l'État marginalisés. Aux enseignants grévistes de rentrer urgemment, de s'occuper des écoliers en se laissant animer par les sursauts patriotiques à l'instar de militaires FARDC, malgré les conditions salariales précaires, ils privilégient l'intérêt supérieur de la nation.
Santé, parlons de cette bonne nouvelle en provenance de Bukavu, c'est la baisse du taux de mortalité due à la maladie de monkeypox dans la province du Sud Kivu. Cela grâce à la mise en place des mesures édictées par la division provinciale de la santé au moyen de fonds offerts par l'UNICEF. Notez que des centres de traitement de la variole de singe fonctionnent dans les 32 zones de santé affectées sur les 34 que compte le Sud Kivu. Il faut souligner aussi que la qualité de prise en charge des malades s'est améliorée comme indique le porte-parole de la division provinciale de la santé. Docteur Claude Baïziré le dit au micro de Jean Kassami.
Le taux de mortalité était déjà autour de 0,6, mais le taux est revenu autour de 0,47. Donc il y a la gestion de la prise en charge qui s'est améliorée, la gestion aussi de la communication qui s'est améliorée. Ça nous permet d'avoir plus de malades, mais aussi à les soigner sans beaucoup de difficultés. Nous sommes, c'est vrai, malheureusement, à 47 décès, mais quand vous voyez la vitesse de perte de patients par rapport à quand on a commencé, ça a diminué. Avec cette démarche, nous pensons que, en tout cas, d'ici peut-être novembre, décembre, nous sommes sûrs que la situation va continuer à s'améliorer davantage et à contenir cette maladie que le monkeypox. L'UNICEF nous a envoyé à la DPS autour de 240 000 et ces fonds sont bien répartis dans les commissions et chaque commission utilise ces fonds comme il se doit. Tout est bien centralisé, bien géré au niveau de la division de finances, division de la santé.
Santé encore avec ces chiffres alarmants, plus de 200 cas de malnutrition enregistrés à ce jour dans la localité d'Eringeti, à environ 90 km au nord de la ville de Beni, à la limite avec la province de l'Ituri. Nous sommes là dans le territoire de Beni au nord Kivu, selon l'infirmier titulaire du centre de santé d'Eringeti. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes ainsi que les enfants sont les plus touchés. Jonas Kakule Mutseke, qui livre ses statistiques de 3 derniers mois, explique que cette situation est une conséquence de la guerre qui empêche les populations d'accéder à leurs champs plus éloignés, modifiant ainsi leur rythme alimentaire. Il plaide pour une intervention du gouvernement pour la restauration de la paix dans la région et un soutien des humanitaires. Il est au téléphone de Guylaine Kassassia.
L'insécurité nous a amené dans une situation de pauvreté, de la malnutrition, où on ne parvient même pas à accéder à nos champs. Raison pour laquelle aujourd'hui même, nous sommes en train d'enregistrer des cas de la malnutrition. Pour les cas de malnutrition aiguë sévère, nous avons 44 personnes. Pour ce qui concerne la malnutrition aiguë modérée, nous avons 166 cas. Pour ce qui concerne les femmes enceintes, nous avons enregistré 94 cas. Les femmes allaitantes, nous avons 29 cas. Et pour ce qui concerne l'INS, nous avons 43 cas. Si rien n'est fait, je ne sais pas si ma population sera dans quelle santé. On a besoin de la sécurité pour qu'on ait l'accès à nos champs. Ce qui nous aide aujourd'hui, c'est seulement les jardins que nous faisons dans nos parcelles. Pour nous avoir un organisme qui peut nous aider à prendre en charge ces cas de malnutrition.
Une délégation de la MONUSCO dans la chefferie de Banyali-Tchabi en Ituri hier mardi, je le disais en titre sur place, les notables et représentants du chef de cette zone ont déclaré, je cite, « La MONUSCO nous aide dans beaucoup de choses, que ce soit sur le plan sécuritaire que pour le développement local. » Cette délégation de la mission onusienne au Congo s'est rendue sur place pour s'imprégner de la situation sécuritaire et évaluer l'impact du travail effectué par les casques bleus dans le cadre de leur mandat de protection des civils. Sadiki Aboubakar était de la partie, voici son reportage.
C'est sous une pluie battante que les représentants des différentes couches sociales de Banyali-Tchabi rencontrent la délégation de la MONUSCO, conduite par le chef de bureau de la MONUSCO Bounia, accompagné par le commandant secteur nord des casques bleus. Dans les échanges, le secrétaire administratif de la chefferie de Banyali-Tchabi, représentant son chef, loue la collaboration entre la MONUSCO et la communauté locale.
Ici chez nous, si la MONUSCO veut se rendre dans tel ou tel autre village, nous parlons à la population qui les accueille et leur facilite l'exécution de leur mandat. Vous savez, la MONUSCO nous aide à beaucoup de choses, tant sur le plan sécuritaire que du développement local, à travers entre autres leurs différentes patrouilles que nous vivons une accalmie dans les milieux.
Parmi les résultats de cette bonne collaboration figure entre autres, des patrouilles de combat mixtes avec le FRDC qui ont permis d'éradiquer les groupes armés locaux et faciliter le retour des populations, comme l'explique le lieutenant-colonel Likimba Mbolu, commandant des FRDC à Tchabi.
Il y a une fâche collaboration entre la population, le FRDC, la population de la MONUSCO, la population de l'IPF. Nous organisons des patrouilles dures et nocturnes pour sécuriser la population et pour éviter les incursions de l'ADF. Nous allons même en profondeur pour aller étouffer les mouvements ennemis.
Rappelons qu'il y a un peu plus de 5 mois que les rebelles des ADF ont signé leur dernière incursion dans Tchabi, Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Et puis cette bouée d'oxygène de la SNEL à la province de la Tchopo, la direction provinciale de cette société a réceptionné mardi 3 groupes électrogènes de 60 kVA, chacun en provenance de la direction générale de cette entreprise à Kinshasa. Ceux-ci ont été acheminés à Kisangani par une délégation conjointe composée du bureau central de coordination et des techniciens de la SNEL pour l'autorité provinciale. Ceci est une réponse du BESECO par rapport à sa requête du 8 octobre dernier relative à l'électrification de la ville de Kisangani. Le point avec Jacques Mokonkole.
Ces groupes électrogènes sont acquis pour alimenter les lampadaires installés dans quelques grandes artères de la ville. On les voit par exemple au centre-ville et vers le plateau Boyoma dans la commune Makisso. Plus de 200 autres lampadaires reçus seront également installés pour éclairer les longs de certaines routes importantes de la ville. Il s'agit notamment du boulevard du 30 juin et son prolongement vers Simisimi au plateau médical et la route TP dans la commune Kabondo. En effet, la ville étant quasiment plongée dans les noirs faute de lumière suffisante, les malfrats opèrent parfois impunément au grand désarroi de la population, ce qui a poussé les commandants de la police nationale congolaise il y a peu à organiser des patrouilles nocturnes afin de tenter de juguler cette insécurité. Les autorités provinciales espèrent que le clairage de certains endroits va certainement contribuer à la lutte contre l'insécurité dans la ville. Rappelons que cette acquisition rentre dans le cadre du protocole de collaboration signé entre le gouvernement provincial et le BESECO pour la mise en œuvre des projets d'investissement. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les chauffeurs membres de l'Union nationale pour la protection des camionneurs, UNPC, crient à la multiplicité des taxes sur le tronçon Lubumbashi-Likasi. Ils dénoncent ce problème qui, d'après eux, les asphyxie. Les chauffeurs plaident auprès des autorités pour que cette situation soit revue, notamment le parking obligatoire érigé sur la route de contournement à Likasi. On écoute leur secrétaire général, Jerry Kalamb, au micro de Jean Gandou.
Nous payons le péage normal de Kimbembe à Likasi, c'est $150. Du fait que les camions passaient par la ville détruisaient les routes et ils ont décidé de créer le contournement avant Likasi pour que le camion ne passe plus par la ville. Likasi a érigé encore un autre péage dans ce contournement qui n'a que 27 km, qui coûte $80. Au-delà de ça, on nous ajoute encore un parking obligatoire sous ce tronçon-là du contournement. Et ce parking-là, on exige tout camion, celui qui qui a deux remorques, il paye 35$. Celui qui a une seule remorque paye 10$. Juste ce petit tronçon-là de Likasi, Lubumbashi, nous arrivons à 260 quelques dollars. Ça devient beaucoup. Les chauffeurs sont asphyxiés par des taxes. Si nous voulons aller au-delà de ça, vers Kambove, c'est toujours dans la circonscription de Likasi, il y a encore un autre péage. Là-bas, nous payons 100$. En dehors de ça, l'ANR a ses taxes, on doit payer 50 000. Il y a la police des mines, et là, avec ses taxes. Mais nous n'arrivons pas à comprendre. Les chauffeurs, vraiment, ne savent plus respirer.
D'après le maire de Likasi, ce parking a été érigé pour lutter contre les embouteillages que créent les camions sur la voie publique. Pour Henri Mungomba, ce n'est pas la mairie qui a instauré le péage. Nous apprenons aussi des camionneurs que le gouverneur de province, qui est passé par cette route au moment où ils observaient l'arrêt de travail ce mardi, a suspendu le passage obligatoire dans ce parking.
Actualité internationale.
Les premiers migrants arrêtés arrivent dans le centre italien créé en Albanie. Peu avant 8 heures, le navire Libra de la marine italienne est arrivé au port de Shengjin dans le nord de l'Albanie. À son bord, 16 hommes originaires d'Égypte et du Bangladesh, des forces de l'ordre italiennes et des hommes en combinaison blanche. Leur voyage aura duré plus de 36 heures. Une quinzaine de personnes les attendaient à l'arrivée, ont pu constater des journalistes de l'AFP malgré l'interdiction totale d'entrée sur le port.
L'invité.
Le Monde célèbre le 15 octobre de chaque année la journée de la canne blanche. C'est en référence aux personnes non-voyantes et malvoyantes. La canne blanche permet en effet à cette catégorie de personnes de sécuriser leurs déplacements et d'être identifiées comme malvoyantes par les personnes voyantes. Jacques Sambeya, coordonnateur de l'ASBELCRI de Bartimé, explique le pourquoi de cette journée et les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Il s'entretient ici avec Plamidi Mbiavanga.
Bonjour Jacques Sambeya.
Bonjour la Radio Capi.
Le Monde célèbre ce 15 octobre la journée appelée la journée de la canne blanche, c'est-à-dire une journée consacrée aux personnes aveugles. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre situation actuelle?
En 2024, la canne blanche reste un luxe pour un déficient visuel congolais. Et pourtant, elle est indispensable pour l'identification. Ça l'identifie face aux usagers de la route, et ce qui régule la circulation. Ça facilite aussi la locomotion de ces derniers. Pendant notre pèlerinage à l'intérieur du pays, à l'espace Kivu, cet instrument reste vraiment un luxe. Pourquoi? Parce que ces derniers ne bénéficient pas d'une allocation mensuelle. Et quand je parle de la canne, c'est la canne canadienne qui est de la meilleure qualité. J'en ai une qui a déjà fait 3 ans. Ça a une boule en dessous et vraiment là, ça facilite la locomotion. Si ces derniers avaient une allocation mensuelle, un forfait cécité ou une prime handicap qui leur permet d'être autonome, de se prendre en charge, ça va vraiment les faciliter la tâche dans l'acquérir, madame.
Dans vos appels, vous vous adressez généralement aux conducteurs des véhicules et autres engins pour demander une attention particulière sur les routes. Est-ce que vos appels sont-ils attendus?
Bon, vous savez, ce qu'il nous faut, c'est vraiment la sensibilisation à grande échelle, comme vous, la Radio Capi, vous facilitez, nous vous jetons des fleurs. Mais nos amis Wewa, surtout, les chauffeurs et caisses des insites, non, ils ont vraiment besoin d'être encore rééduqués à nouveau. Nos appels ne sont pas attendus. J'ai une anecdote qu'en face de l'INRB, il y a un centre là, INAV. Il n'y a pas aussi un dodane. Quand les amis traversent avec la canne, quand nous traversons, on nous ramasse et vous perdez la vue comme ça. Il est impérieux vraiment à l'exécutif, aux commissions nationales de la prévention routière, d'en tenir compte, madame.
Plusieurs personnes reprochent aux aveugles de s'adonner à la mendicité sans tenir compte du trafic sur la route. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Nous les dénonçons avec la dernière énergie. Nous leur proposons l'entrepreneuriat social. Ils peuvent créer des petites et moyennes entreprises. Un non-voyant congolais, ils peuvent vendre tout. Ils peuvent vendre tout. Ils peuvent commencer avec le pain, avec ceci et cela. Mais ils ont un problème sérieux sur les fonds de démarrage. Mais il y a aussi certains, ils ont cela, mais ils ont toujours cet esprit-là de la mendicité. Ça, ce que nous demandons à l'État, c'est d'abord de donner cette prime handicapée. Et après, s'ils continuent dans la mendicité, et maintenant là, l'État va les traquer, les sanctionner. Mais nous n'encourageons pas ça. C'est vraiment mauvais, ce n'est pas du tout bon. La mendicité, là, surtout quand nous les voyons, ça jette de la discrédit au pays, là, au boulevard, tout ça, c'est pas du tout bon, madame.
pour terminer en ce jour de la canne blanche, quel message vous donnez aux aveugles aux façons particulières et à la population en général?
Ce que nous demandons aux amis, surtout ceux qui n'ont pas bénéficié de cursus scolaires classiques et académiques, que nous puissions vraiment nous unir pour que nous puissions pousser l'État à nous donner cette allocation mensuelle, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a un décret des lois qui parle de la représentativité, mais les choses traînent encore. Alors cette allocation, cette rémunération minimale d'intégration va ramasser tout le monde, ce qui fait qu'on sera autonome. Et pour la population, c'est d'accepter, c'est l'inclusion. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées stipule l'inclusion sociale. Et l'État aussi, à son tour, doit mettre en œuvre cette Convention des Nations Unies qu'il a ratifiée et la loi organique portant protection et promotion des personnes avec handicap.
Mais c'est Jacques Sambéa, Radio Capi, vous remercie.
C'est à moi de le dire, voilà. Merci.
Ok. Ouais.
Et c'est la fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Pélé Kipela Mondo, à Jude Bilanda et à Alain Goy.